Cette église, racontée dans le livre des Actes, cette église primitive, nous fait tous un peu rêver. Une église gouvernée par l'esprit, par l'enthousiasme des premiers temps, une église où chacun met tout en commun, où est vécu à la fois un partage, une espérance, une foi extrêmement vive. Tout cela nous fait un peu rêver et je dirais aussi un peu nous culpabilise. Parce que finalement, notre Église est-elle aussi solidaire que ce qu'elle était, et sommes-nous aussi enthousiastes que l'étaient les premiers disciples? Alors du coup, la tentation, c'est d'y chercher des modèles pour aujourd'hui, et de se dire que ces actes des apôtres, sur lesquels nous prêchons peu, font aussi partie de la parole de Dieu, et que là doit se trouver le modèle, l'inspiration de notre propre Église pour aujourd'hui. Et la tentation, c'est d'aller dans les actes des apôtres et de se dire, nous allons trouver la recette, en quelque sorte, pour savoir comment annoncer Jésus-Christ aujourd'hui, comment s'organiser, quel rôle donner aux prêtres, aux diacres, aux pasteurs, aux fidèles. Et puis aussi, comment nous devons baptiser, comment nous devons accueillir les uns ou les autres dans l'Église, et comment nous pourrions essayer de vivre ensemble dans l'Église, comme cette Église primitive, avec le don du Saint-Esprit. Cette volonté, ce désir a été d'ailleurs la démarche des réformateurs. Vous savez que Luther et Calvin, à sa suite, ont voulu revenir à la pureté originelle de l'Église et se sont dit, plutôt que cette espèce d'énorme institution que les siècles progressivement ont élaborée, revenons à la pureté évangélique de l'Église primitive. Et c'est ça d'ailleurs le principe, vous savez, de la Réforme, sola scriptura, l'Écriture seule. Donc cherchons dans l'Écriture seule le modèle de notre Église. L'idée est bonne, mais pas si simple. Elle est bonne sûrement en ce que cela a permis de revenir à une Église plus simple, une Église plus pauvre, une Église gouvernée par l'Esprit et la parole. Bon, tout ça, ce sont de bons principes. Mais quand on réfléchit un peu à la démarche des réformateurs, on peut être étonné par cette radicalité. En effet, vous savez que pour Calvin en particulier, un des grands principes, c'était que l'Église devait être réformée et devait être toujours en réforme. Et donc la grande idée de Calvin, c'est que l'Église doit sans arrêt s'adapter au temps dans lequel elle est et que par conséquent, il n'y a pas de modèle unique et éternel d'Église qui devrait pouvoir s'adapter à tous les temps. Et donc Calvin était lui-même, je dirais, assis entre deux chaises, entre ce modèle de l'Église primitive auquel il disait qu'il fallait revenir, et puis son idée, son intuition fondamentale que l'histoire existe et que ce qui était bon une époque n'est pas ce qui doit être bon à une autre époque. Et on le trouve dans certains passages, dont un que je peux vous lire, où Calvin montre justement ce basculement qu'il fait entre l'un et l'autre. Il dit dans l'Institution chrétienne, « Je n'entends point d'approuver d'autres constitutions que celles qui sont fondées sur l'autorité de Dieu tirée de l'Écriture, tellement qu'on les puisse tellement appeler divines. » Donc là, c'est clair, on retourne à l'Écriture. Quant à la discipline externe, aux cérémonies, il ne nous a point voulu, Dieu n'a pas voulu nous ordonner en particulier, comme mot à mot, la manière avec laquelle il nous faut gouverner, d'autant que cela dépend de la diversité des temps et qu'une même forme ne peut être propre ni utile à tous les âges. Et nous avons à conclure qu'on peut les changer, en instituer de nouvelles, abolir celles qui y ont été, selon qu'il est expédient pour l'utilité de l'Église. » Alors vous voyez que on se rend compte que les réformateurs, enfin Calvin, poliment dit au début qu'il faut s'appuyer sur l'écriture et très rapidement balaye tout ça en disant, écoutez, chaque chose en son temps. Et par conséquent, alors, ce modèle de l'Église primitive se trouve sérieusement écorné. Et nous pouvons dire qu'il faut prendre ce qu'il y a de bon, mais faire le tri, et que ce n'est certainement pas un modèle à imiter. Et je pense que c'est même très essentiel, ça, parce qu'il faut préciser quelle est la source de notre religion. Et ce sola scriptura, l'écriture seule, principe de la réforme, je crois, fait beaucoup de tort à nos églises, parce que ça laisse penser qu'on serait des écritures aux lattes, alors que le fond de notre foi évangélique n'est pas l'écriture, mais c'est Jésus-Christ. Nous ne sommes pas un peuple du livre. L'écriture, la Bible, ce n'est que le témoignage historique à une certaine époque de la façon avec laquelle certains chrétiens ont reçu le message du Christ. Mais nous, notre foi, c'est le Christ, c'est sa prédication. Et de s'appuyer sur l'écriture et de ne revenir qu'à l'écriture, c'est la tentation fondamentaliste. Donc notre base, c'est le Christ. Et la Bible nous en donne une connaissance imparfaite. C'est, je vous l'ai dit là, ce n'est que le témoignage d'une époque telle que les auteurs ont entendu et compris le Christ. Et donc ma foi, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas ce qu'ont cru comprendre même les apôtres après la mort du Christ. Et donc les actes des apôtres n'engagent que les apôtres, pas ma foi. Et même, je vous dirais, quitte à vous choquer, que Paul lui-même n'est pas Jésus-Christ. Et ma foi, c'est Jésus, ça n'est pas Paul. Et donc si Paul dit un certain nombre de choses, ça ne regarde que lui. Et je ne suis pas obligé d'être d'accord avec lui. C'est pour ça d'ailleurs que dans nos églises, eh bien, nous avons des femmes pasteurs. Il faut le faire. Paul a dit explicitement que les femmes ne devaient pas prendre la parole dans les églises. Eh bien, nous disons, la révélation, c'est Jésus-Christ, et l'idée que Paul a de la communauté ne regarde que lui et est le témoignage de son temps. Alors, que faire des actes ? Dans les actes, nous avons un témoignage sur la manière avec laquelle les premiers chrétiens ont essayé de vivre l'Évangile. C'est tout. Voilà, c'est tout. Ça n'est pas la volonté de Dieu. Il n'y a pas dans les actes une révélation sur l'organisation de l'Église telle qu'elle serait voulue par Dieu. Il y a la seule chose qui compte, c'est l'Évangile. Et donc nous sommes chrétiens. Nous ne sommes pas, pour inventer un mot, Église primitivien. Je dis ça parce que certaines églises chrétiennes considèrent le modèle des actes comme le modèle à suivre, comme une révélation. Moi, je suis chrétien. Ma foi, c'est en Jésus-Christ. Ce n'est pas dans cette image de l'Église primitive qui est donnée dans les actes. Et même, dirais-je, Jésus lui-même n'a pas fondé de religion. Il n'a pas institué des diacres. Il n'a pas institué des synodes, des assemblées générales, des conciles, des conseils presbytéraux, ni même des diplômes d'études de théologie, ni même les uns qui seraient pasteurs et les autres qui ne le seraient pas. Tout cela, Jésus n'en a rien dit, parce que son objectif, c'est de renouveler notre foi. Et l'Évangile, c'est l'incitation à la conversion du cœur, à se renouveler de l'intérieur. Un bon arbre, dit-il, donne de bons fruits, et on ne peut pas forcer un mauvais arbre à donner des bons fruits. Et donc une bonne église, c'est une église où il y a des bons chrétiens. Pour ce qui est du reste, peu importe. Jésus n'impose pas les fruits à donner. Saint Augustin a bien compris cela. Quand il dit « aime et fais tout ce que tu veux », il dit « commence d'abord par aimer, et après, fais ce que tu veux, parce que si tu aimes, tu feras le mieux possible. » Et je dirais pareil pour l'Église. Avant de vous demander s'il faut être baptisé par immersion ou par affusion, commencez d'abord par donner votre cœur à Jésus-Christ. Pour le reste, ça n'a aucune importance. Pour la forme, il faut la forme de l'Église, il faut réfléchir avec pragmatisme, essayer de trouver comment on peut être les plus efficaces possibles aujourd'hui au XXIe siècle. Je crois que les premiers chrétiens ne savaient pas très bien comment s'en sortir, comment vivre concrètement leur foi en Jésus-Christ. Alors ils ont tenté une mise en œuvre. Il y avait des défis pour leur époque et ils ont réagi comme ils ont pu par rapport au contexte de leur temps. Mais il ne faudrait pas sacraliser le résultat, mais parce que le résultat dépendait du contexte et notre contexte n'est pas le même. Il faut s'adapter et Calvin a raison, l'Église doit être sans cesse en réforme. Cela dit, on peut admirer leur courage, leur initiative, leur foi et tout ça, mais ce n'est pas à appliquer bêtement. Donc l'Église primitive, c'est une réponse à une situation donnée. Il ne faut pas imiter la réponse, mais essayer de réfléchir sur la méthode. Quant à, je dirais, l'Église elle-même, on pourrait avoir la tentation de dire « oui, mais l'Église, c'est un peu plus qu'une méthode, ça doit être l'image du royaume de Dieu. » Alors là, je vais dire méfiance. Je vais dire méfiance parce que est-ce que l'Église doit avoir la prétention d'être, je dirais, de réaliser quelque part dans un milieu donné et limité le royaume? Est-ce que l'Église doit être un microcosme du royaume de Dieu, d'une sorte de petite société gouvernée par l'Évangile, etc. C'est une tentation et une tendance très, très courante au cours des siècles dans l'Église, mais je la crois aussi très dangereuse. Certains s'en sont aperçus, comme le très célèbre Alfred Loisy, qui a dit, il paraît que le contexte est mauvais, mais peu importe, qui a dit « Jésus a annoncé le royaume de Dieu » et c'est l'Église qui est venue, sous-entendu catastrophe, quoi. Parce que l'Église, quant à prétendre être le royaume de Dieu, ça pose un réel problème. Parce que je crois que, en fait, Jésus-Christ, justement, n'aime pas l'Église, ou n'a pas voulu annoncer l'Église. Et je ne pense pas que l'Église doive être un modèle réduit du royaume de Dieu. Parce que, il y a en fait deux solutions pour la vie chrétienne. L'une, c'est de se dire que l'on doit travailler globalement dans le monde pour la venue du royaume de Dieu. Et oui, on doit travailler pour un monde plus fraternel, un monde où il y ait plus de partage, un monde où il y ait plus de préoccupations de l'autre, où il y ait plus de grâce qui soit vécue. C'est la vision qui est celle de Jésus-Christ, ou plutôt la mienne, et donc je l'attribue à Jésus-Christ. Et il y a celle de ceux qui aiment l'Église et qui disent « le royaume de Dieu, il faut le créer localement, dans des sortes de zones protégées, en quelque sorte, où l'on pourrait, là, enfin, vivre entre soi le royaume de Dieu. » Et donc, dans le monde, on n'y arrive pas, mais entre nous, on va réussir à vivre de partage, de fraternité, d'amour, de communion, de confiance, etc. Vous voyez, il y a deux options. Et bon, là, c'est un peu court pour développer l'option. La seule chose qui peut défendre l'option de vivre le royaume de Dieu entre soi, ce serait une vision un peu biologique du nucléi. C'est-à-dire, avant de transformer le monde, on va d'abord créer localement des sortes de zones de développement fort d'un nucléus du royaume de Dieu qui pourra ensuite, si vous voulez, rayonner dans le monde. Mais néanmoins, je crois que cette tentation de faire de l'Église des petites unités du royaume est une tentation dangereuse. Certes, c'est très bien pour ceux qui s'y trouvent. C'est chaleureux, sympathique, on peut vivre au chaud, loin de la méchanceté du monde. Mais le danger, c'est qu'on tombe dans la secte. On tourne à la secte. On se referme par peur du monde. Et du coup, le monde, c'est l'obscurité, c'est la violence, c'est la méchanceté, c'est le capitalisme, c'est le matérialisme. Et heureusement qu'entre nous, on est bon, et que là, on est bien, et qu'on est généreux, et qu'on est fraternel. C'est très dangereux, ça. Et on retrouve, d'ailleurs, plus les églises chrétiennes veulent s'appuyer sur les actes des apôtres pour faire leur modèle d'Église, plus on entend dans leurs prédications une sorte de coupure par rapport au monde et de crainte du monde extérieur qui est diabolisé. L'extérieur, c'est les ténèbres et les violences. Mais Jésus n'était pas comme ça. Et Jésus, il a vécu dans le monde. Et moi, je crois que Jésus n'a pas formé de communauté étanche autour de lui. Alors vous me direz, il vivait quand même avec ses apôtres. Oui, tu parles, communauté modèle, avec un traître, un colérique, un lâche. Enfin, c'est vraiment tout ce que je n'ai pas envie d'avoir dans mon Église. Et donc la communauté des apôtres n'était absolument pas une image du royaume de Dieu. Pas du tout. Certainement pas. Et donc, la communauté autour de Jésus, telle qu'on la voit, c'est pas une Église repliée sur elle-même. Mais c'est un bataillon de départ, je dirais, c'est une armée faite de briques et de brocs, comme les armées de la résistance en 40, et qui, avec des bons et des mauvais, partent pour œuvrer dans le monde et pour travailler dans le monde. On n'est pas dans le repli. Et par conséquent, cette armée, on la voit, elle n'est pas modèle, et les disciples du Christ ne sont pas modèles. Ce n'est pas un modèle ni de solidarité, ni de tendresse. Les disciples ont été incapables de veiller une heure avec lui. Donc même pour Jésus, il a un peu cette tentation à la fin de sa vie. Il dit à ses disciples, voilà, là je suis angoissé, restez avec moi, entourez-moi, soutenez-moi. Tu parles, les disciples, ils s'endorment, ils n'en ont rien à faire. Et donc il n'y a pas eu cette communauté autour du Christ. Et donc il faut savoir que finalement, eh bien, il n'y a pas d'Église. Nous sommes tout seuls dans notre vie face à Dieu et responsable de notre vie face à Dieu, et nous n'avons pas à compter sur les autres pour réaliser notre destin à notre place. Mais bon, cela dit, Jésus est mort seul sur la croix, nous on n'est pas Jésus, donc on a besoin quand même d'un peu d'aide. Alors je ne vais pas être trop radical, tant mieux si on peut être sympathique en Église et chaleureux, je vous y incite, hein, évidemment, bien sûr. Et on est plus fort ensemble, et ensemble on se soutient les coudes, d'accord. Et l'Église est une communauté de gens qui s'entraident, d'accord. Mais ce n'est pas le royaume de Dieu. Et en tout cas, il ne faut pas avoir une vision trop haute de l'Église, je crois. Alors, d'autant plus que, reprenons l'Église primitive. Bon, j'ai dit tout à l'heure, ah c'était bien, ils s'aimaient, ils étaient généreux. Mais en fait, il y avait de graves problèmes dans cette Église. De très graves problèmes. Le premier problème, c'est qu'elle était fondée sur une erreur fondamentale de théologie. Certes, ils mettaient tout en commun, mais ils étaient persuadés que la fin du monde, c'était pour dans 15 jours. Alors, si la fin du monde, c'est dans 15 jours, il n'y a pas de problème, je vous donne ma montre. Hein. Mais si la fin du monde, c'est dans un siècle ou dans 10 000 ans, c'est pas pareil. Et donc l'Église primitive était basée sur une erreur de théologie fondamentale, c'est qu'ils croyaient que la fin du monde était imminente. Donc c'est vrai, si la fin du monde est imminente, eh bien, ça n'est pas la peine d'aller à l'école, ce n'est pas la peine d'économiser, ce n'est pas la peine de réparer sa maison. Et donc là, eh bien oui, vendons tout et vivons tout en commun en attendant que Jésus revienne. Mais c'était une erreur parce que Jésus n'est pas revenu. Et donc le modèle de l'Église primitive s'est trouvé courir à la catastrophe. Et tous ces saints de Jérusalem qui avaient tout mis en commun, Jésus tardant à revenir, se sont trouvés dans la plus extrême misère. Et à ce moment-là, Paul a dû courir tout le bassin méditerranéen et faire la quête en disant « S'il vous plaît, donnez un peu d'argent pour faire vivre ces pauvres gars de Jérusalem qui ont tout mis en commun ». Et Paul dit à ses fidèles, « Quant à vous, je vous en prie, travaillez, faites des enfants, parce que sinon, on ne s'en sort pas. » Et donc, vous voyez, cette Église primitive, elle s'est trompée de théologie. Et donc, on ne va pas appliquer un modèle qui repose sur des bases fausses. Alors, le problème, c'est, est-ce que Jésus ne s'était pas aussi trompé là-dessus ? Est-ce que Jésus ne croyait pas aussi une fin du monde imminente ? Bon, je laisse le ver faire son travail maléfique en vous. Personnellement, je ne crois pas que Jésus se soit trompé sur ce point. Je pense que les premiers chrétiens ont cru ça et qu'ils ont interprété les propos de Jésus dans ce sens. Ou en tout cas, ce n'était pas ça, ce n'était pas la bonne idée. Et l'autre problème, je vous l'ai dit, de cette communauté chrétienne, c'est que là où elle me semble absolument pas exemplaire, c'est qu'elle est tombée dans ce repli sectaire que je vous ai dénoncé tout à l'heure. Regardez l'histoire d'Ananias et Saphira, ces deux braves gens qui, refusant d'appliquer exactement la règle de la communauté, sont condamnés à mort par Pierre. Faut le faire. Alors, si vous voulez appliquer la règle de l'Église primitive, ça va faire du dégât. Hein. Eh bien, on est dans la secte prêt à tuer ou à annoncer un Dieu qui peut mettre à mort celui qui ne respecte pas telles quelles les règles de la communauté. Alors, ne me dites pas qu'il faille imiter cette Église. Cette Église primitive, eh bien, parfois, elle est odieuse, et je dirais que c'est l'exemple de ce qu'il faut éviter. L'exemple de l'Église primitive n'est pas à être pour nous un modèle, il faut le chercher ailleurs. Mais bon, j'exagère, il y a quand même de bonnes choses. Il faut essayer d'être positif. Ce qu'il y a de bien, c'est que ils ont quand même, plutôt sur certains points, ils nous donnent des leçons, ces premiers chrétiens. En particulier sur le pluralisme. Parce qu'ils acceptaient assez largement que il y a diverses opinions. Certains voulaient un christianisme juif, d'autres plutôt vers les païens, certains annonçaient d'une façon, l'autre d'une autre. Et surtout, ce que j'aime dans cette Église primitive, c'est qu'il n'y avait, contrairement à ce qu'on pense, pas d'unité. Vous savez, on apprend aux enfants que la réforme est le drame de la chrétienté, que l'Église avant était une, elle était unie, ils étaient ensemble, un seul voix, un seul, etc., et que la réforme, c'est une sorte de brisure effroyable qui vient éclater le corps du Christ. Eh bien non, c'est pas vrai. Lisez les Actes des apôtres. Les apôtres s'engueulaient comme chien et chat. Et Paul et Pierre et Paul se disent « Si tu vas à gauche, j'irai à droite, et si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Et ils acceptaient, je dirais, cette pluralité d'une façon extrêmement sympathique, avec une grande diversité dans cette Église. Et donc ils savaient agir comme ça, dans la diversité. Ils se disputaient, c'est vrai, mais ils envoyaient des missionnaires pour essayer de faire les choses à leur manière, mais avec une très grande liberté laissée à chacun. Et ça, je trouve ça remarquable. Alors, on peut dire que dans l'Église ensuite aussi, il y a eu des bonnes choses. Hein. Saint Augustin était remarquable, Thomas d'Aquin et tout ça. Mais le problème est venu dès le 3 ou 4e siècle, quand, en fait, l'Église a commencé à s'institutionnaliser et à prendre de la place. Et finalement, peut-être que ce qu'il y a de plus grave dans notre Église aujourd'hui, c'est la place que prend l'institution de l'Église, qui est incapable d'avoir cette liberté et de laisser la place à l'initiative de l'individu qui allait créer une communauté ici ou là et personne ne lui disait rien. Aujourd'hui, dans notre Église protestante unie, eh bien, nous ne sommes pas libres de faire ce que nous voulons vraiment. Il y a des synodes qui décident pour nous. Alors on dit, il faut savoir, est-ce qu'on va bénir les couples de même sexe? Et on nous dit, surtout, pas d'initiative. Attendez les directives du synode et alors vous appliquerez les directives du synode. C'est quand même incroyable, ça. C'est-à-dire que finalement, c'est l'Église qui décide à notre place. Alors là, je crois qu'il y a effectivement des exemples à prendre sur cette Église primitive où il y avait, je crois, un poids minime de l'institution, et ça me fait un peu rêver. Ce qu'il y avait de bon dans cette Église primitive, c'est ce foisonnement de recherche. Il n'y avait pas de blocage d'institution, justement. Chacun pouvait avoir des initiatives et on pouvait en discuter, et c'était quelque chose qui était fait, qui doit être fait avec un point fixe, qui est celui de l'Évangile. Garder la vigueur de l'Évangile. Et on nous dit qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, et donc nous devons avoir pour base l'Évangile et pas les synodes, ni les conciles. Notre base, c'est l'Évangile. Et une Église ne peut être construite que sur l'Évangile. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Je dirais même que dans notre Église ou dans toute institution, la question qui se pose, c'est où est le contre-pouvoir ? Parce que finalement, un pouvoir n'est supportable que s'il y a du contre-pouvoir. Question, où est le contre-pouvoir dans nos Églises ? Eh bien, bonne question, je ne suis pas sûr de le savoir. Mais je dirais que finalement, il n'est que dans une seule chose, c'est que chaque Église locale, eh bien, nous avons le pouvoir de faire finalement ce que nous voulons. Et sans ça, on n'est plus dans l'Église, on est dans la dictature. Et le contre-pouvoir, c'est de pouvoir se fonder soi-même sur sa propre lecture de l'Évangile. Et c'est là où le sola scriptura doit revenir, c'est que l'Église, ce n'est pas une institution qui fonctionne autonome, elle est faite de fidèles qui, eux, ont un rapport à l'Écriture. Et c'est à partir de là qu'on peut construire quelque chose. Et donc, il faut redonner la première place à l'Évangile et à la conversion personnelle et se souvenir que l'Église, elle est faite de croyants et de fidèles et que c'est là qu'est la vérité évangélique. L'Église, c'est une communauté, c'est vrai, mais si on lit dans l'Évangile même, est-ce que Jésus a jamais même cherché à créer une communauté ? Quand Jésus guérit un aveugle ou un lépreux, il ne lui dit pas « Ah, c'est bien, voilà, j'ai un chrétien de plus, j'ai un fidèle de plus, va dans l'équipe, dans la communauté. » Il le guérit, va dans ta maison, rentre chez toi. Il les guérit individuellement et Jésus ne crée aucune communauté. Il ne les force pas à vivre ensemble. Et donc la seule chose essentielle, c'est la relation individuelle avec Dieu pour se mettre en route. Et même, je dirais que le Christ est tout à fait anticommunautaire. Il dit « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le secret. » Il ne dit pas « Quand tu pries, rentre dans une église et prie avec les autres. » « Entre dans ta chambre, ferme ta porte. » Alors bon, je ne vais pas non plus vous inciter à partir chacun. La communauté, ça aide, on en a besoin et... parce que ça permet de mutualiser ses forces pour être plus actifs, pour réfléchir ensemble. Donc très bien, mais la communauté doit rester secondaire et elle doit rester au service de la relation personnelle avec Dieu. Alors d'accord, oui pour le geste de chercher comment s'organiser pour être fidèle au Christ dans la solidarité, mais rester fidèle au Christ. Quant à l'époque, eh bien effectivement chaque époque... je dirais, impose des contraintes différentes pour l'organisation de l'Église. Donc ça dépend de l'époque. L'Église primitive a fait ce qu'elle a cru bon, et nous, eh bien, faisons ce que nous croyons bon. Mais peut-être, en fin de compte, que, je dirais, ce qui me touche finalement dans ces actes des apôtres, c'est justement cette Église maladroite. Je vous l'ai dit, ça repose sur une erreur de théologie. Pierre est insupportable, il fait que, enfin bref, ils sont tous insupportables, ils sont obtus, ils sont bêtes. Et puis, ce ne sont que des échecs. Étienne, on crée des diacres, Étienne fait un grand discours, paf, on le lapide, allez, terminé, au suivant. Et donc, ce ne sont que des successions d'erreurs, d'échecs et de maladresses. Et ce qui me touche, c'est que justement, l'Église est réussie malgré cela. Et que d'une certaine manière, je lis les actes des apôtres comme une sorte de récit pascal. C'est-à-dire que, eh bien, malgré nos échecs, l'Église triomphe. Malgré la maladresse de ces apôtres, de ces premiers apôtres qui vraiment font tout de travers, eh bien, malgré cela, l'Église a perduré. Et malgré cela, le message a été transmis. Et malgré cela, aujourd'hui, nous pouvons dire « Christ est vivant ». Et donc c'est non seulement que l'Église réussit malgré ses échecs, mais j'irai même plus loin en disant que l'Église réussit à travers ses échecs. Et que c'est à travers ses échecs qu'avec l'aide de Dieu, l'Église finalement accomplit sa mission. Et ça c'est pour moi une très bonne et grande nouvelle. Parce que aussi bien pour l'Église que pour ma vie propre, ma vie n'est qu'une succession de maladresses, de choses mal jugées, d'inconstances, d'erreurs. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que, à travers ces échecs, à travers ces erreurs, eh bien, il peut y avoir un chemin qui va vers la vie et vers la lumière. On l'a souvent dit, Dieu écrit courbe avec des lignes droites. Non, c'est pas ça, il écrit droit avec des lignes courbes, je ne sais plus. Mais c'est un peu ça l'idée, c'est que finalement, j'ai confiance dans cette puissance de Dieu, dans cette puissance de l'Évangile, qui arrive à faire en sorte que même un chemin tortueux et plein d'erreurs et de divagations peut mener quelque part. Et je vous disais, c'est l'illustration de la résurrection, et pour moi c'est ça le message de la résurrection, c'est que la mission du Christ qui finalement se solde sur un échec, parce que le peuple au lieu de se convertir le supprime, eh bien malgré ça le Christ traverse cette épreuve et il est vivant parmi nous et sa parole est proclamée. Et c'est non seulement malgré ça, mais c'est même grâce à ça. Alors ça c'est extraordinaire. Et ça veut dire que même Dieu arrive non pas simplement à faire en sorte que malgré nos erreurs, ça passe quand même, mais à faire en sorte que nos erreurs elles-mêmes soient réutilisées dans un nouveau concept qui arrive à servir de tremplin pour la vérité et pour la vie. Et donc, regardons non pas, ce qu'ont fait eux-mêmes les apôtres, mais ayons confiance dans cette puissance de l'Esprit et de la parole. Et quand on dit que le Saint-Esprit guidait les apôtres, ce n'est pas qu'il leur dictait ce qu'il fallait faire au jour même, mais c'est qu'au-delà de ces imperfections de leur vie et au-delà de nos propres imperfections et de nos erreurs, il y a la puissance de l'Esprit qui œuvre et qui peut faire en sorte que de l'erreur, de l'égarement, du mal, du péché, de l'égoïsme, de tout ce que vous voulez, et bien finalement que tout cela mène à la vie. Et c'est là la confiance chrétienne et la foi dans la résurrection et dans Pâques, que finalement tout cela finit bien, et que Dieu a victoire sur la mort et sur l'imperfection humaine. Amen.